Imaginons un instant pouvoir négocier le destin d'une ville entière.
Ouais, carrément.
Directement avec le créateur d'univers. Un peu comme on marchanderait, je sais pas, le prix de quelques fruits au marché.
C'est une image complètement vertigineuse, ça.
C'est clair. Et pourtant, c'est le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge en plein cœur de l'Antiquité.
Tout à fait.
Et on va s'appuyer sur les analyses vraiment approfondies du docteur Kenneth Matthews, surtout concernant les chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse.
Un texte incontournable.
Absolument. L'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est vraiment de démêler une série de contrastes, des contrastes saisissants. D'un côté, on a une foi qui grandit, qui s'affermit, et de l'autre, on a le poison lent du compromis moral. On va aussi naviguer sur cette ligne de crête, extrêmement délicate, entre la justice divine qui doit sanctionner le mal et la miséricorde qui cherche à sauver.
Ouais, c'est une vraie tension.
Et tout ça, ça s'incarne à travers les destins croisés de deux hommes de la même famille, donc Abraham et son neveu, Lot. Bon, décortiquons tout ça.
Et c'est un point de départ fantastique, en fait, parce qu'il faut d'emblée poser un constat qui est fondamental.
Je t'écoute.
Ce que l'analyse du docteur Matthews met en lumière, et avec beaucoup de justesse d'ailleurs, c'est qu'on ne lit pas ici un simple registre historique.
Ou même une vieille légende, quoi.
Non, c'est bien plus profond.
Exactement. C'est une véritable classe de maître sur la manière dont la relation entre le divin et l'humanité évolue, et se construit surtout.
À ce stade précis du récit, Abraham, il est littéralement plongé dans ce que Matthieu s'appelle une école de disciples.
Ah, j'aime bien cette expression.
N'est-ce pas? Il n'est pas né parfait, Abraham. Il est en train d'apprendre, vraiment, étape par étape, à faire totalement confiance à une autorité souveraine.
Ouais, c'est un processus, quoi.
C'est ça. Les événements qui vont se dérouler dans ces plaines arides, ils vont forger cette confiance d'une manière qui est absolument spectaculaire et inédite pour l'époque.
C'est fascinant. Mais avant d'en arriver au chaos, aux flammes, à la destruction qu'on associe inévitablement au nom de Sodome, le texte y s'ouvre sur une scène d'une douceur presque surprenante.
Ouais, le contraste est fort.
Complètement. On est dans la chaleur écrasante du milieu de la journée. Abraham est assis près des chênes de Mamré. C'est à l'extérieur de la ville.
Il cherche un peu d'ombre, quoi.
Voilà. Et soudain, il lève les yeux et il voit trois hommes. Et là, malgré son âge très avancé, il se lève et il court pour les accueillir.
C'est un détail important, ça.
Et l'étude du docteur Matthews, elle identifie ses visiteurs comme une manifestation de Yahvé accompagnée de deux anges.
Tout à fait.
Bon, pour être précis sur le plan théologique, il ne s'agit pas d'une incarnation humaine complète, hein, comme le christianisme le décrira plus tard avec Jésus-Christ, mais c'est une véritable apparition physique, tangible.
Exactement. Et ce mouvement d'Abraham, tu sais, cette course en pleine chaleur, ça en dit très long.
C'est-à-dire ?
Bah, dans le contexte du Proche-Orient ancien, l'hospitalité, c'était pas juste une simple marque de politesse ou un truc de savoir-vivre.
C'était vital.
C'était un devoir sacré absolu. En l'absence totale de système hôtelier, l'accueil des voyageurs sur ces routes désertiques, qui étaient super dangereuses d'ailleurs, bah, c'était une pure question de survie.
Donc on ne pouvait pas refuser, en fait.
Refuser l'hospitalité, ça équivalait presque à une condamnation à mort pour le voyageur. Et Abraham, il ne fait pas les choses à moitié.
Ah ça non, il sort le grand jeu.
Ouais, il offre de l'eau pour laver les pieds meurtris par la poussière, il demande à sa femme Sarah de préparer des gâteaux avec la meilleure farine, et il fait même abattre un veau tendre.
C'est énorme, pour juste trois voyageurs qui passent.
C'est un acte d'une générosité extravagante pour un repas improvisé. C'est un véritable acte de service et d'humilité.
Et c'est au beau milieu de ce repas partagé, dans cette atmosphère très intime sous la tente, que la fameuse promesse divine, elle est renouvelée.
La promesse du Fils.
Voilà. Mais cette fois, avec une date butoir. Sarah aura un fils dans exactement un an.
Le compte à rebours est lancé.
Et ça provoque une réaction tellement humaine. Sarah, elle écoute aux portes de la tente. Elle sait très bien qu'elle est ménopausée. Le texte insiste lourdement là-dessus d'ailleurs.
Oui, elle se sent, comment dire, usée.
Usée, c'est le mot. Alors, face à l'énormité de la chose, ben elle rit.
Intérieurement.
Un rire silencieux.
Ouais.
Une pensée silencieuse qui dit, en substance, aurais-je encore ce plaisir alors que je suis vieille?
C'est cynique, mais compréhensible.
Et la réplique divine claque instantanément. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? C'est une phrase fondatrice. D'ailleurs, elle est mise en parallèle par le docteur Matthews avec l'évangile de Luc.
Ah oui, avec l'annonce à Marie?
Exactement, quand l'ange annonce à la Vierge Marie que rien n'est impossible à Dieu. Mais là, il y a une question qui s'impose.
Laquelle?
Dieu recadre Sarah pour ce rire silencieux. Pourtant, un chapitre plus tôt, Abraham, lui, s'était littéralement jeté face contre terre en riant face à cette même promesse.
Oui, c'est vrai.
Alors, comment on comprend cette apparente différence de traitement? Pourquoi Abraham s'est passé et Sarah, elle se fait reprendre?
Ce qui est fascinant ici, c'est que la clé de cette scène, elle réside pas du tout dans une réprimande sévère, mais plutôt dans une invitation.
Une invitation?
Le docteur Matthews, il explique de manière très convaincante que l'intention divine ici, c'est d'inclure activement Sarah dans cette alliance.
D'accord, je vois.
Pendant longtemps, toute l'attention s'était focalisée sur Abraham. Mais une alliance de cette ampleur, ça peut pas être juste une transaction individuelle.
Il faut qu'ils soient deux.
Il y a une dynamique de coparticipation qui est essentielle. Pour que l'impossible se réalise, Abraham et Sarah doivent tous les deux faire ce saut dans le vide.
Ils doivent s'approprier la foi, en fait.
Exactement, personnellement. En exposant ce rire secret à la lumière, Dieu cherche pas à humilier Sarah. Il l'interpelle directement.
C'est comme s'il lui disait « je vois tes doutes ».
C'est ça. « Je connais tes doutes, je vois ton cynisme lié aux blessures du passé, mais je t'invite à y croire, toi aussi. » Et ce repas partagé qu'ils ont préparé à deux, ça devient le symbole palpable de cette intimité grandissante, pas seulement dans le couple, mais dans leur proximité avec le Créateur.
C'est beau. Et on passe alors d'une scène très domestique, sous la tente, à une dimension totalement géopolitique.
Un changement d'échelle radical.
Ouais, les visiteurs se lèvent et leurs regards plongent vers la vallée, en direction de la ville de Sodome. Et là, on assiste à un monologue divin qui est fascinant.
Dieu qui se parle à lui-même.
Voilà. Dieu se dit « cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il prend vraiment la décision consciente d'exposer ses plans. Et l'analyse qu'on suit, elle montre que c'est pas du tout fait au hasard.
Non, il y a un but pédagogique.
Abraham a été choisi avec une mission précise, enseigner la voie de l'Éternel, qui se définit par la justice et la droiture à ses futures générations.
Il doit comprendre comment Dieu juge le monde pour pouvoir l'enseigner ensuite.
Exactement. Le prophète Ésaïe, il appellera plus tard Abraham l'ami de Dieu, ce qui trouve un écho parfait quand Jésus appellera ses propres disciples, non plus des serviteurs, mais ses amis et confidents dans l'évangile de Jean.
C'est un saut conceptuel qui est massif dans l'histoire des religions antiques. Dieu invite un homme dans son conseil intime.
C'est du jamais vu.
Et ce que Dieu révèle, c'est son intention de descendre pour voir si le péché de la ville de Sodome justifie le cri de détresse qui est monté jusqu'à lui.
Et ce verbe « descendre », il n'est pas anodin, si.
Ah non, il est extrêmement lourd de sens. Sur le plan littéraire, ça crée un parallèle direct avec l'épisode de la tour de Babel, quelques chapitres plus tôt, où Dieu descend également pour constater l'orgueil humain.
D'accord. Mais ça veut dire que Dieu a besoin de se déplacer pour voir.
Bien sûr que non. Le texte sous-entend pas qu'un Dieu omniscient a besoin de se déplacer physiquement pour avoir des infos. C'est une figure de style.
Un langage juridique un peu.
Tout à fait. Un langage juridique ancien pour démontrer que la justice divine n'est jamais aveugle, jamais capricieuse ou expéditive. Il y a une véritable investigation.
On vérifie les faits avant de condamner.
Les faits sont évalués scrupuleusement, ouais.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que en entendant ça, Abraham révèle sa véritable envergure.
Il monte au créneau.
Il s'avance et il commence à négocier, ou plutôt à plaider. Il dit « Feras-tu périr le juste avec le méchant ?»
Quelle audace!
Mais oui, j'aime bien l'envisager ici comme un avocat de la défense, particulièrement audacieux face à une cour suprême.
C'est exactement l'image.
Il cherche une jurisprudence, quoi. Il tente de trouver la faille dans l'engrenage du jugement pour sauver la ville. Il part de 50 justes, puis 45, 40, pour finir à 10.
C'est brillant.
C'est brillant d'audace, oui. Mais en analysant sa ligne de défense, on s'aperçoit qu'Abraham, il est intellectuellement coincé.
Comment ça?
Il raisonne de manière binaire. Pour lui, l'option A, c'est que Dieu détruit toute la ville, y compris les innocents. Et l'option B, c'est que Dieu épargne toute la ville, y compris les criminels, à cause d'une poignée d'innocents. Il voit pas d'autre issue, en fait.
Et cette limitation binaire, c'est la marque de notre condition humaine face à la complexité de la justice.
On veut des solutions simples.
On veut souvent des solutions globales, ouais. Mais le texte met en évidence une dynamique fascinante ici. Dieu écoute cet avocat improvisé avec une immense patience.
Il le coupe même pas.
Il lui coupe pas la parole pour corriger sa logique. Il l'acquiesce à chaque palier, jusqu'au chiffre de 10. Cependant, au moment d'agir, Dieu va introduire une troisième option.
Celle qu'Abraham n'avait même pas vue.
Celle qu'il n'avait même pas envisagée. L'extraction ciblée. Il va extraire chirurgicalement les innocents, en l'occurrence Lot et sa famille, avant de laisser la destruction s'abattre sur les coupables.
C'est une approche totalement différente.
Et le docteur Matthews relie d'ailleurs magnifiquement cette attitude au livre de Job, où Dieu se révèle comme le grand juge de toute la terre.
Il maintient l'équilibre.
Il maintient l'équilibre moral de l'univers en protégeant l'innocent et en jugeant le coupable. Mais, et c'est important, sans toujours fournir au préalable le manuel d'instruction détaillé à l'intelligence humaine.
On change ensuite de décor de manière radicale. On quitte la lumière dorée des collines d'Hébron, là où Abraham discutait face à face avec le divin, pour plonger dans les ténèbres oppressantes de Sodome à la tombée de la nuit.
L'ambiance n'a plus rien à voir.
Rien du tout. L'investigation divine prend forme. Et le premier détail visuel, il est glaçant de contraste.
Vas-y.
Abraham, il courait en plein jour à l'extérieur de la ville pour accueillir des étrangers. L'autre, lui, il est assis le soir à la porte de Sodome.
Ce qui est un détail crucial, la porte.
Exactement. Pour comprendre le poids de cette image, faut rappeler que la porte d'une ville fortifiée antique, c'est pas juste un passage.
C'est le centre névralgique.
C'est l'agora, le tribunal, le centre commercial. Être assis à la porte, c'est faire partie de l'élite dirigeante.
Il est bien installé.
Lot, c'est plus un nomade sous sa tente. C'est devenu un notable. Il est profondément ancré dans le système de la ville.
Et cette image de Lot, assis à la porte, c'est vraiment le résultat d'une lente érosion spirituelle.
Comment ça a commencé ?
Quelques chapitres auparavant, au moment de se séparer d'Abraham, Lot avait simplement levé les yeux et choisi les plaines, parce qu'elles étaient bien irriguées, idéales pour ses troupeaux.
Un choix purement économique au départ.
Totalement. Ensuite, il a dressé ses tentes près de Sodome. Et maintenant, il siège carrément au cœur de son administration.
C'est la pente glissante.
Le compromis se fait jamais du jour au lendemain. C'est une succession de petits pas vers ce qui est perçu comme avantageux. Mais Lot conserve quand même un réflexe de son éducation.
L'hospitalité.
Voilà. Il insiste lourdement pour accueillir les deux visiteurs angéliques chez lui, sachant pertinemment que la place publique de Sodome, elle est mortelle la nuit.
Et il avait bien raison d'avoir peur parce que la situation, elle dégénère immédiatement. La maison est encerclée par les hommes de la ville et la précision du texte est vraiment effrayante.
Des jeunes aux vieillards.
Toute la population masculine est là. Ils exigent que Lot fasse sortir ses hôtes pour les, je cite, « connaître ».
Et là, il faut s'arrêter sur ce mot.
Oui, l'analyse de Matthieu s'arrête sur ce terme. Parce que « connaître » dans la Bible, ça peut avoir plusieurs sens.
C'est vrai.
Mais ici, c'est sans équivoque. En s'appuyant sur des occurrences comme dans Genèse chapitre 4, la source confirme qu'il s'agit d'un euphémisme hébraïque clair pour désigner des actes sexuels.
Et dans ce contexte précis, un viol collectif punitif.
Exactement. Destiné à affirmer la domination totale de la ville sur ses étrangers.
Si nous relions cela à une vision plus globale, c'est l'illustration brutale de la dépravation totale du système que Lot a choisi d'intégrer.
C'est terrifiant.
La violence n'est pas seulement physique, tu vois, elle est structurelle. Utilisée comme une arme d'humiliation et de rejet de toute altérité. Et la réaction de Lot face à cette foule furieuse, ça révèle toute l'étendue de sa propre tragédie personnelle.
Et c'est là qu'on heurte un mur moral, franchement. En lisant ce texte aujourd'hui, c'est choquant.
Complètement.
Pour apaiser la foule et protéger le prétendu honneur lié à l'hospitalité de ses visiteurs, Lot, il propose carrément de leur livrer ses propres filles.
Qu'il précise être vierge en plus.
C'est une offre monstrueuse. Ça rappelle douloureusement un autre récit glaçant de la Bible dans le livre des Juges au chapitre 19.
Oui, un parallèle très sombre.
En lisant ça, l'empathie du lecteur pour Lot, elle s'effondre totalement. Comment on peut rationaliser un acte pareil? Et surtout, ça pose une question théologique majeure que beaucoup se posent.
La question de l'apôtre Pierre.
Voilà. Comment l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître du Nouveau Testament, peut-il oser qualifier ce même Lot d'homme juste? Comment on accorde ce terme de justice avec un père qui est prêt à sacrifier ses filles à une meute?
C'est une question incontournable. Et ça exige de définir ce que signifie la justice dans ce cadre biblique précis.
Je suis tout ouïe, parce que là...
L'analyse du docteur Matthews est capitale sur ce point. Quand le Nouveau Testament qualifie Lot de juste, il ne fait pas du tout l'apologie de son comportement moral, qui est loin d'être irréprochable.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Le terme fait référence à son statut d'alliance, au fait qu'il croyait fondamentalement au vrai Dieu, contrairement aux habitants de Sodome.
D'accord, c'est un statut spirituel en fait.
Voilà. L'apôtre Pierre précise d'ailleurs que Lot tourmentait son âme juste au contact de leurs actions iniques. Il souffrait de son environnement.
Mais il y restait quand même.
Et c'est là tout le drame du compromis mis en évidence par la source. À force de baigner dans une culture toxique, son logiciel moral a été totalement corrompu.
Il a perdu sa boussole.
Lot en est arrivé à une rationalisation malade, pensant qu'un acte barbare, livrer ses filles, c'était un moindre mal pour honorer un devoir social. Le jugement de Lot est altéré.
Il est complètement perdu.
Il essaye de régler un problème spirituel majeur avec les outils cassés et les stratégies perverses de son environnement.
C'est l'ironie noire du récit, finalement. Lot, il s'épuise à vouloir sauver des anges puissants avec ses minables stratagèmes, alors que ce sont les anges qui sont venus le sauver, lui.
Et la nécessité de ce sauvetage, elle devient évidente quelques instants plus tard. Les anges frappent la foule de cécité, ça crée une confusion totale qui permet de refermer la porte.
L'aube se lève, le jugement est imminent, les anges pressent Lot de rassembler sa famille et de fuir.
Et là, c'est presque absurde.
Mais oui, Lot, il hésite, il traîne les pieds. Le danger, il est absolu, l'heure tourne et pourtant il ne veut pas partir.
Il est attaché à cette ville.
Le texte décrit les anges qui doivent physiquement le saisir par la main, lui, sa femme et ses filles, pour les traîner hors des murs de la ville.
L'emprise de Sodome sur cet homme, elle est telle qu'il faut lui arracher la vie sauve par la force.
C'est fou.
Et cette hésitation, ça montre bien à quel point il est difficile de s'arracher à un système qui nous a façonnés, même quand ce système est en train de s'effondrer.
Les instructions des anges, une fois sorties, elles sont claires et tranchantes. Sauve-toi, ne regarde pas derrière toi.
Ce n'était pas juste une indication géographique.
Ah non, bien sûr.
Ne pas se retourner, c'était exiger une rupture totale, un rejet psychologique et moral de cette ancienne vie.
Couper les ponts.
Il fallait couper les ponts mentalement, oui.
Une directive que la femme de Lot, ne parvient pas à respecter. Elle se tourne vers la ville et elle est instantanément changée en statue de sel.
Une image tellement puissante.
Puissante et elle traverse les millénaires. Jésus l'utilise comme avertissement direct dans l'évangile de Luc. L'analyse de notre source précise même qu'il existe encore aujourd'hui, au sud de la mer Morte, des formations rocheuses salines que la tradition associe à cette femme.
Des témoins géologiques.
Exactement. Mais avant de passer à la suite, il y a un verset presque caché qu'on doit absolument mettre en lumière. Le chapitre 19 au verset 29. Ça offre la clé de voûte de cette opération de sauvetage.
Mmh. Ah oui, c'est un point d'orgue théologique, ça. Le texte déclare que lorsque Dieu a détruit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham.
Pas de Lot.
Non, il n'est pas écrit qu'il s'est souvenu de la vertu de Lot, ni même de ses tourments intérieurs. Il s'est souvenu d'Abraham. Ce phrasé, il est identique à celui du récit du déluge.
Où Dieu se souvint de Noé.
Exactement. Ce que le docteur Mathieu souligne ici, c'est l'importance monumentale de l'intercession. Lot est extirpé du brasier uniquement parce qu'il bénéficie de la relation privilégiée de son oncle avec le Créateur.
C'est l'écoute directe de la négociation qu'on a analysée plus tôt.
Tout à fait. Lot est sauvé par pure grâce, par ruissellement en quelque sorte de la fidélité d'un autre.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que survivre aux flammes, ça signifie pas forcément survivre indemne.
Loin de là.
Non. On aborde là la dernière étape de notre exploration, au lendemain du désastre. Lot a physiquement fui le brasier, mais psychologiquement, il a emporté les cendres de Sodome avec lui.
Son état d'esprit est ravagé.
Bien qu'il ait obtenu l'asile dans la petite ville de Tsoar, il est terrorisé à l'idée d'y rester, donc il choisit l'isolement extrême.
La grotte.
Voilà. Il se retire dans les montagnes et s'emmure vivant dans une grotte obscure, avec pour seule compagnie ses deux filles. On est très loin du patriarche majestueux sous la tente ouverte de Mamré.
C'est la descente aux enfers finales, ce que la source décrit sans détour comme l'un des passages les plus sombres de la Genèse.
Âme sensible s'abstenir, ouais.
Dans cette grotte coupée du monde, les filles de Lot sont persuadées, peut-être à cause de l'ampleur de la catastrophe qu'elles ont vue au loin, qu'elles sont les dernières survivantes sur Terre.
Et la préservation de la lignée, c'était vital à l'époque.
Une obsession vitale. Mais guidées par la morale complètement faussée qu'elles ont héritée de leur enfance à Sodome, elles élaborent un plan terrifiant.
Elles enivrent leur père.
Deux nuits consécutives pour s'accoupler avec lui. Et là, le docteur Matthews établit un parallèle magistral avec un autre patriarche, Noé.
Ah oui, après le déluge.
Après avoir survécu au déluge, qui est un événement cataclysmique similaire, Noé finit ivre et nu dans sa tente. Ce qui débouche sur une tragédie familiale et une malédiction.
L'histoire se répète.
Dans le cas de Lot, l'ivresse et l'inceste conduisent à la naissance de deux fils.
Et les prénoms de ses enfants, Moab et Ben-Ami, y portent un poids historique écrasant dans le reste de la narration biblique.
Absolument. Ces naissances issues du désespoir et du trauma, elles sont pas anecdotiques. Moab et Ben-Ami deviendront les pères fondateurs des nations moabites et ammonites.
Des ennemis jurés.
Pour comprendre l'impact, il faut lire les livres historiques, comme ceux de Samuel ou des Chroniques. Ces deux nations, elles deviendront des épines permanentes dans le flanc d'Israël. Elles incarneront l'hostilité et l'idolâtrie.
C'est fou de voir jusqu'où ça va.
L'analyse met en évidence une loi spirituelle effrayante. Les compromis moraux d'un homme effrayé, caché dans une grotte, ont généré des siècles de conflits armés et de brutalité pour les générations futures.
C'est vraiment l'effet papillon de la compromission.
Exactement ça.
Franchement, la structure narrative de ces chapitres, elle est d'une brillance absolue. Parce qu'elle repose entièrement sur ce jeu de miroirs et de contrastes. D'un côté, on a Abraham, un homme imparfait, mais qui choisit d'avancer vers la lumière.
Sous la tente de Mamré.
Oui, il est assis sous les chênes, en pleine journée, la tente ouverte aux étrangers. Il accueille le divin, il reçoit la promesse d'un héritier, Isaac, par lequel des nations seront bénies, et se tient debout pour intercéder pour autrui. Il bâtit un héritage d'espérance.
Et le contraste avec Lot est saisissant.
De l'autre côté, on a Lout, l'homme des choix de facilité. Il s'installe d'abord en marge, puis s'assimile à la ville corrompue.
L'ascension sociale qui mène à la chute.
C'est ça. Il finit sa course dans une obscurité totale. Terré au fond d'une grotte, ivre, abusé, engendrant des nations qui perpétueront la guerre. C'est la démonstration glaçante que nos petits renoncements, ils finissent par définir la trajectoire entière de notre vie.
L'observation est parfaite. Et c'est tout l'intérêt de se plonger dans ces études pointues. Le docteur Matthews, il nous rappelle que ces textes antiques, loin d'être dépassés, agissent comme des miroirs tendus vers notre propre réalité contemporaine.
C'est clair qu'on est concerné.
Il est rare qu'une personne choisisse consciemment de détruire sa vie ou ses principes du jour au lendemain.
Personne se réveille en se disant « Allez, aujourd'hui je détruis tout ».
Non. Le déclin commence toujours, comme pour Lot, par une décision apparemment pragmatique. Un petit compromis avec nos valeurs, parce que c'est plus confortable, plus rentable, ou simplement pour s'intégrer socialement.
Pour faire comme tout le monde.
Sauf que ces infimes concessions, accumulées au fil des années, elles modifient notre jugement profond. Elles émoussent notre sensibilité à ce qui est juste. Jusqu'au jour où l'on se réveille, assis à la porte d'un système que l'on aurait autrefois condamné.
Et ce constat sur l'assimilation, ça m'amène à une ultime réflexion. Une pensée qui résonne puissamment à partir de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui.
Vas-y.
Prenons l'image tragique de la femme de Lot. Elle est transformée en colonne de sel au moment où elle tourne son regard vers la ville en flammes. Très souvent, on interprète ça comme un acte de punition divine, instantané et arbitraire.
Un coup de foudre punitif, oui.
Un simple coup de foudre pour désobéissance. Mais si on y réfléchit plus profondément, n'y a-t-il pas une réalité psychologique vertigineuse cachée là-dessous ?
C'est-à-dire ?
Si son corps est devenu du sel, cette matière inerte du désert, c'est peut-être simplement qu'il a pris la nature exacte de ce à quoi son cœur était déjà viscéralement attaché.
Waouh !
Elle était physiquement hors de Sodome, mais Sodome n'était jamais sortie d'elle. Elle n'a pas pu avancer parce qu'elle refusait de lâcher prise. Et ça, ça soulève une question brûlante pour notre propre modernité.
Une question à méditer.
Une question à méditer en refermant ce chapitre pour tous ceux qui nous écoutent. Quels sont, dans notre environnement quotidien, ces Sodomes familières ? Quelles sont ces habitudes, ces compromissions confortables ou ces relations toxiques que l'on refuse obstinément de cesser de regarder en arrière, prenant ainsi le risque tragique de voir notre propre existence et notre propre avenir se figer sur place, transformés en pierre.